Voilà, Musique sans frontières se termine. Je laisse ma place à mes collègues Dachaïra et son équipe dynamique qui va vous présenter son émission dans quelques toutes petites secondes, le temps de s'installer. Je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous prochain, jeudi prochain. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir.
Belarrartian aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Umetxoak ikusirik, loreak ezin bizirik, arantzak gendu nahi dizkio, bizitarru bat eman.
Calmement. Bonsoir, vous êtes sur la clé des ondes 90.10 et c'est l'émission Achaïra, l'émission animée tous les 15 jours, le jeudi, de 21h à 22h30 par le Cercle Jean Barbier de la Fédération Anarchiste. Bonsoir tout le monde.
Oui, bonsoir Flora.
Bonsoir André.
Bonsoir Phil.
Bonsoir Philo.
Et bonsoir Bruno.
Notre invité.
Oui. Alors ce soir donc, après les éphémérides, eh bien notre invité Bruno Lott, qui est un habitué de l'émission, qui revient en quatrième semaine, pour nous parler de la bande dessinée Hermon. Bande dessinée inspirée par la Révolution espagnole. Donc, on va discuter avec Bruno. Ensuite, nous traiterons certains points de l'actualité. Les questions de l'identité nationale, le mouvement étudiant en Autriche, qu'est-ce qui se passe dans les CRA, le mouvement des précaires et des chômeurs, la répression des luttes anti-israéliennes, réforme des lycées, qu'est-ce qui va se passer à Copenhague bientôt. Enfin voilà, donc une actualité assez chargée. Ensuite, André nous présentera un livre d'Edouard Jourdain qui présente donc Proudhon, un socialiste libertaire, c'est ça. Voilà, puis ce sera l'agenda et la fin de l'émission. Donc on commence par les éphémérides.
Et donc c'est même toi qui continues puisque
eh oui, c'est moi.
T'as le plus ancien.
Voilà.
Donc, on va faire un petit saut en arrière. On va se retrouver le 11 novembre 1887 à Chicago à 11h30 dans la cour de la prison. C'est l'exécution par pendaison des anarchistes August Spice, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel, qui avait été condamné à mort le 20 août 86 après la tragédie de Haymarket. Louis Link s'est quant à lui suicidé la veille dans sa cellule. Samuel Fielden, Michael Schwab sont envoyés au bagne à perpétuité et Oscar Nib est en prison pour 15 ans. Ce sont des leaders du mouvement anarchiste et syndicaliste américain. Ils sont les victimes innocentes de la répression dirigée par le patronat qui voulait briser le mouvement revendicatif que les anarchistes avaient fait naître le 1er mai 86 autour de la revendication pour la journée des 8 heures. Petit rappel des faits, le 3 mai 86, la police et les ministres patronales tuèrent deux ouvriers grévistes aux usines McCormick, célèbre marque de tracteurs. Le 4 mai, lors d'un meeting de protestation à Haymarket, une bombe est jetée sur la police qui chargeait la foule, un massacre s'ensuit. Le véritable auteur reste inconnu. Ces tragiques événements sont à l'origine du 1er mai, journée de lutte internationale. Suite aux funérailles, un immense cortège se fit le 13 novembre. Le 25 juin 1993, un gouverneur de l'Illinois démontrera l'innocence des accusés. Les morts seront alors réhabilités et Samuel Fielden, Michael Schwab et Oscar Nib seront remis en liberté après 7 ans de bagne.
Et comment on répare 7 ans de bagne par erreur ?
Par erreur.
L'histoire ne le dit pas.
L'histoire ne le dit pas.
Non. Alors on va passer en 1896, peu d'années ensuite. Donc c'est plus précisément le 20 novembre et c'est la naissance de Rose Pezzotta, militante anarcho-syndicaliste, anarchiste et féministe américaine. Elle est née donc en Ukraine à Derazna, dans une famille juive de marchands de grains. Très jeune, elle est influencée par les révolutionnaires de Narodnaya Volia, volonté du peuple, qui sont anti-tsaristes, et rejoint donc très vite après les anarchistes. À 17 ans, 1913, elle émigre à New York pour échapper à un mariage arrangé et commence à travailler comme couturière, puis adhère au syndicat ILGWU. Alors c'est International Ladies Garment Workers Union. Bon, je me suis lancée. Effectivement, c'est un syndicat à forte densité féminine. Elle devient l'amie d'Emma Goldman. Elle voyage ensemble en Europe et notamment en Angleterre. Pour être liée aux anarchistes et avoir milité contre la Première Guerre mondiale, elle sera arrêtée, c'est presque un classique, en 1919 lors d'un Palmer Raid. Menacée d'expulsion comme subversive vers l'Union soviétique, elle évite finalement l'expulsion en réussissant à établir sa nationalité, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs de Emma Goldman et de son compagnon Bergman. En 1922, après avoir rencontré Sacco et Vanzetti en prison, elle prend la parole dans les meetings pour leur défense et collabore au journal anarchiste Road to Freedom. Activisme qui lui vaudra à nouveau une arrestation en 1927. Élue vice-présidente de l'ILGWU en 1934, elle engage une lutte d'une dizaine d'années pour l'organisation des travailleurs, se heurtant à l'opposition de la fraction communiste ainsi qu'à la hiérarchie machiste. D'ailleurs, elle démissionnera en 1944, façon de protester contre le fait d'être la seule femme à siéger au conseil exécutif du syndicat, alors que les 85% des membres sont des femmes. Trouvez la logique. Bon. Durant la grève de 1937, elle est victime d'une agression par des hommes de main. Son visage est lacéré et elle subira une perte permanente d'audition. Durant la Seconde Guerre mondiale, ébranlée par le massacre des Juifs, elle s'engage plus avant dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme et l'aide aux survivants. En 1944, elle publie son autobiographie, Blood Upon the Waters et retourne en 1946 travailler dans le rang des couturières. Donc, voilà. Il y a quelques femmes de temps en temps pour lesquelles on peut tracer la biographie, puisqu'elles ne sont pas forcément en nombre très représentatives sur les mouvements, y compris sur les mouvements anarchistes. Voilà pour Rose Pesutta. Qu'est-ce qu'on fait? Musique.
Petite musique. Hein.
Et puis, comme ça,
quand on les a vus débarquer équipés de pétanque à comme des milleurs habillés, on applaudit en même temps qu'on les enviait. Enviait, il y avait qu'à voir les filles les matées chaque fois qu'ils prenaient la tête du défilé. On était vert, c'est pas notre couleur préférée, préférée. On veut des blousons tout aussi chouettes que leurs blousons, comme les fly jackets du bataillon Abraham Lincoln. Alors certains des officiers ont joué sur cette rivalité qui les amusait, mais ils se sont très très vite mis à déchanter. Déchanter, c'était déjà suffisamment compliqué. Cette nouvelle tour de Babel a commandé, sans rajouter de la jalousie sur les flyjackés, flyjackés. On veut des blousons tout aussi chouettes que leurs blousons, comme les flyjackets du bataillon Abraham Lincoln. De métier, ils ont dessiné des patrons tailleurs du quartier, se sont tous mis à coudre et à piquer, chantant dans les ateliers autogérés. En peu de temps, nos nouveaux blousons, ils étaient prêts, sans copyright, ils avaient copié les flyjackés, que le monde entier allait nous envier, les flyjackés, ceux du bataillon Abraham Lincoln. Maintenant toutes les brigades étaient équipées de pétanque à plein des mille alliés. C'est toute l'armée de la République qui nous enviait, enviait. Mais dès qu'elle aurait comme nous des flyjackés, les filles matraient défilées en entier, bien habillées, les fachos on irait les bouffer, les bouffer. Bien habillées, les fachos on irait les bouffer, les bouffer. Bien habillées, les fachos on irait les bouffer.
C'était les Gabonistes. Une chanson extraite de leur album Guerre d'Espagne, plus précisément la lettre. Voilà, donc nous recevons ce soir Bruno Lott qui va nous parler d'une aventure commencée déjà il y a quelque temps et qui a l'air de se poursuivre plutôt bien, puisque Bruno vient de réaliser le quatrième volume de Hermo et qu'en il arrive aussi avec une petite brochure explicative, pédagogique, voilà, sur son travail. Alors, il me semble qu'à un moment, Bruno, tu avais eu un projet de mener un travail parallèle à la création d'Hermo. Travail qui s'orientait vers la fiction, et puis là, on sait qu'est-ce qui se passe.
Oui, alors effectivement, après les trois premiers tomes de Hermo, je m'étais dit je vais faire une coupure avant de continuer de raconter la suite de l'histoire, et pour pas justement m'endormir dans dans le fait de raconter, de faire des scénarios à chaque fois avec les mêmes personnages, j'avais peur que de me lasser et de lasser les lecteurs aussi. Donc je me suis dit je vais faire une histoire et surtout que j'avais une histoire que j'avais commencée avant Hermo, qui était dans des cartons à dessin. Donc je me suis dit, je vais la retravailler, puis je vais faire, je vais partir sur une nouvelle série qui va être, alors, qui va être différente, puisque c'est une histoire qui se passe dans le futur, mais c'est un futur dans lequel il y a une dictature, donc ça ressemble étrangement à l'Espagne franquiste. Et puis il y a un groupuscule anarchiste qui essaye de renverser tout ça. Voilà. Donc on n'était pas très loin de. Voilà. Donc j'ai commencé à faire cette BD. J'ai fait, pour ne rien vous cacher, j'ai fait 30 pages de l'album, à peu près la moitié. Et puis j'ai eu les doigts qui m'ont démangé, la tête qui a explosé, parce que j'avais envie de retrouver mes personnages, Hermon et compagnie et tous les autres. Donc j'ai pas pu laisser Hermon sur le bord du chemin. Donc j'ai fait le tome 4 et j'ai définitivement laissé tomber l'histoire de science-fiction, parce que je trouve que finalement, si c'est pour raconter en se servant de la science-fiction, raconter ben moi ce que j'avais envie de raconter, donc la révolution espagnole et puis ce qui en découle, donc je trouvais plus important d'essayer de faire ce travail qui est finalement un travail de mémoire par rapport aussi à tous les Espagnols fils et petits-fils d'émigrés de ces années 39, et puis par la suite aussi, puisque le franquisme, jusque dans les années 60, il y a des Espagnols qui ont passé la frontière pour éviter de se faire arrêter, hein, tout simplement, ou alors parce qu'ils ne supportaient plus le régime franquiste. Donc c'est très proche. Hein, c'est...
Oui, passer dans l'autre sens aussi, pour aller faire des actions.
Ah oui, aussi, oui, il y a eu, oui, mais enfin, bon, c'est, il y aurait pu avoir un mouvement, à la fin de, si, puisqu'on en parle, on peut parler des guérilleros qui sont, qui ont voulu passer à la fin de la guerre, qui étaient tous, on parle d'identité nationale, donc qui étaient tous des gars qui avaient libéré la France, hein, et qui se sont dit ben tiens, maintenant qu'on a libéré la France, pourquoi on va pas passer les Pyrénées et continuer jusqu'en bas de l'Espagne pour chasser définitivement le nazisme, enfin le nazisme, le franquisme, le nationalisme, disons. Voilà. Donc ces guérilleros donc se sont retrouvés au bord de la frontière, dans les Pyrénées, vallée d'Aspe, je crois, et ils ont passé la frontière, mais là, ils ont été abandonnés par les Français, les Anglais, les Américains, et on les a laissés se faire massacrer. Donc certains, ensuite, ont organisé aussi une guérilla là-bas, notamment dans les Pyrénées, mais disons qu'elle a jamais pu vraiment. Bon, il y a peut-être l'ETA qui était. Certains membres de l'ETA peut-être étaient les résidus de ces luttes-là, mais. Et encore, je ne suis pas sûr, hein, mais disons que c'est des choses qui se sont croisées, peut-être. Mais disons qu'après ce coup des guérilleros, je ne pense pas que le. La lutte contre Franco a été très très efficace, quoi, disons. Voilà, c'est malheureusement.
Et efficace ou non, mais ça, elle a continué.
Elle a continué
jusque dans les années 60, enfin,
jusqu'en 80, ouais. Même après la mort de Franco, qui est mort en 75. On a eu encore le régime franquiste s'est pas arrêté à la mort de Franco. Donc jusque dans les années 80, il y a eu encore des arrestations. Enfin voilà quoi. Et de toute façon, les gens qui étaient dans les prisons, ils sont restés jusqu'au semblant de démocratie.
On a parlé d'Armo, mais il faudrait peut-être que tu présentes. Parce que bon, même si tu es venu il y a quelque temps à l'émission, ça remonte à au moins une année. Les auditeurs, eux, ils ont peut-être pas forcément suivi. Donc, même si après, on prend un temps pour s'appuyer plus sur la quatrième bande dessinée, et donc le Mujeres Libres, bon, peut-être que ça vaut le coup, de façon un peu global, tu nous présentes ton projet, et puis les numéros qui ont précédé.
Oui, alors donc pour revenir à Hermo, alors lui, son histoire, l'histoire d'Hermo que j'ai prévue, se terminera en 39, en février 39, quand Hermo... mais bon, je peux vous révéler la fin parce que tout le monde la connaît. Donc les franquistes gagnent la guerre, malheureusement, hein, et Hermo passe en France et il se retrouve dans un camp à Argelès. Voilà, ça sera la fin de l'histoire. Ouais. Mais comme je fais qu'un album par an, c'est le temps normal qu'il faut pour faire pour réaliser une bande dessinée. C'est pas que je suis feignant, hein, mais disons que il faut quand même un certain temps. Donc je sors un album tous les ans. Là j'en suis au quatrième album, donc on est toujours en 36 au quatrième album. J'essaye d'avoir la chronologie en fond, il y a la chronologie de la guerre d'Espagne évidemment, et moi je brode l'histoire d'Hermo dessus, je me sers de la guerre d'Espagne comme un canevas. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un roman, c'est l'histoire d'un enfant du sud de l'Espagne qui est orphelin et qui un jour rencontre sur sa route un cirque, et il décide de partir avec eux. Donc dans le cirque, il y a un magicien, donc il y a un côté quand même, ce côté spectacle, etc., qui va donner une autre... Il n'y a pas que la dimension de la guerre, hein, il y a cette dimension-là aussi qui adoucit, disons, cette guerre d'Espagne. Eux, ce sont des gens qui sont au départ pas du tout engagés, ils subissent et petit à petit, au fur et à mesure des albums, ils s'engagent et ils se retrouvent surtout à Barcelone. Et là, il faut dire qu'à Barcelone, c'est surtout la réaction contre les militaires a été entourée par les anarchistes. Donc ils se retrouvent dans le milieu anarchiste et on voit un peu ce qui s'est passé en Catalogne et en Aragon pour l'instant. Voilà, donc là j'en suis au tome 4. Le tome 4 donc se passe aussi à Barcelone, en Catalogne et puis à Barcelone. C'est plus exactement dans cette histoire, j'ai développé des caractères féminins. Il y a plusieurs héroïnes qui sont toutes engagées à leur façon. Il y a une combattante, il y en a une autre qui est plutôt à l'arrière et qui s'occupe des réfugiés, parce qu'il faut penser qu'à l'époque, dans Barcelone, il y avait énormément de réfugiés qui arrivaient tous les jours, puisque ils quittaient petit à petit, ils fuyaient surtout tous les républicains, hein, ils fuyaient, qui étaient dans la zone nationaliste et dont la vie était en jeu, donc ils fuyaient cette zone-là pour venir se réfugier. Et l'endroit le meilleur à l'époque pour se réfugier, c'était Barcelone, qui était plus protégé que Madrid, par exemple. Et il y a aussi pas mal de gens de Madrid qui sont allés à Barcelone, parce que il faut dire que Barcelone n'était pas trop bombardé, était quand même bombardé, mais pas trop, par rapport à Madrid, qui là était vraiment le cœur... le cœur de la guerre, quoi. Franco, par rapport à l'international, si Madrid tombait, c'était l'Espagne entière qui tombait. Mmh. Donc c'était un point stratégique. Barcelone, en plus, avait une ouverture, la Catalogne, disons, avait une ouverture vers la France, ce qui pouvait aussi rassurer pas mal les gens. Ils avaient une porte de sortie. Et puis, il y avait quand même, malgré cette guerre, on a l'impression, après plusieurs lectures que j'ai eues, on a l'impression qu'il y avait quand même, au fond, un bien-vivre, quoi. Les gens étaient, on peut pas dire heureux, parce que comment on peut être heureux dans une guerre quand on risque de se recevoir une bombe sur la tête? Mais disons qu'au niveau social, au moins, au niveau politique, etc., on avait l'impression d'aller vers un plus de liberté. Faut pas oublier que l'Espagne avant la guerre était quand même une Espagne était sous le joug de politique et sous le joug religieux aussi. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un veut intervenir, non ? J'ai l'impression de beaucoup parler. Là,
non, ben, c'est ce qu'on attend. Non, par contre, c'est vrai que pour orienter un petit peu, là, tu as parlé de lecture que tu viens de faire. Justement, moi, j'avais une question sur tes recherches et puis également tes méthodes de recherche. Alors, pas pour que tu nous donnes des trucs. Non, simplement pour savoir comment...
Le secret de fabrication.
Oui, voilà. Alors, pas dans cette optique, mais bien pour voir comment tu...
Oui, mais bon...
Parce qu'il y a énormément de matériaux.
Voilà,
donc il faut bien à un moment faire...
Oui. Non, mais il n'y a pas vraiment de secret de fabrication. Ouais. Simplement, moi, je me suis intéressé depuis plus de 20 ans à la guerre d'Espagne, bien avant de penser en faire une bande dessinée. Mmh. C'est quelque chose que j'ai pratiquement à force de lecture intégré. Et quand je dessine... j'ai bien sûr je fais beaucoup de recherches, mais je suis déjà plongé dans cet univers, imprégné complètement de l'Espagne, bien que étant pas espagnol moi-même, des fois j'ai l'impression d'avoir vécu là-bas, d'avoir vécu à cette époque. Ça c'est très très facile pour moi, du coup, de dessiner, de redonner aux gens l'ambiance de l'époque. Alors évidemment, c'est l'ambiance que je rêve moi, c'est une Espagne fantasmée, quoi, certainement, hein, mais disons que il y a peu de gens qui l'ont vraiment vécu et qui vont lire ma BD. Donc ce que j'essaye de faire, c'est en fait de rendre le plus vrai possible et comme moi je l'imagine, quoi.
Tu travailles avec des photos ou...
Bien sûr, voilà. Oui, énormément de documentation. Je suis tout le temps en train de chercher de la documentation. Dès que je peux rentrer dans une librairie, je vais voir s'il n'y a pas un rayon avec un bouquin que j'aurais pas vu. Voilà, bon, sans parler d'Internet, toutes les recherches, je suis constamment en train de trouver des nouveaux sites qui parlent de la guerre d'Espagne. D'ailleurs, il y en a certains qui sont carrément des sites franquistes. Actuel. Ouais. Il y a des gens qui il y a du révisionnisme incroyable.
Ah, oui.
Sachant que en ce moment c'est vrai qu'il y a une recrudescence des idées franquistes, vu qu'il y avait eu un séminaire qui devait avoir lieu sur la par rapport au côté néfaste de l'Église, et ils ont eu beaucoup de problèmes, aussi bien avec le Parti populaire qu'avec le Parti socialiste.
Oui, puis moi je suis en relation par mail avec des groupes de la CNT à Saragosse, et toutes les semaines il y a une manifestation anti-nazie parce qu'il y a telle ou telle chose qui se sont passées, donc on en entend énormément parler. Ils sont encore actifs, hein. Faut pas s'endormir là.
Oui, mais tout le monde est actif, donc effectivement, il vaut mieux pas s'endormir, parce que en face aussi, ils peuvent être actifs. Oui, donc, sur la question des recherches, et pourquoi ce quatrième volume avec Morales Libres, comment t'as fait ton choix ?
Alors, il me paraissait vraiment important de souligner l'engagement des femmes pendant cette révolution, cette guerre civile. Toutes ces femmes, enfin, je pense que si on peut comparer à un événement qui s'est passé en France, c'est la Commune. La Commune de Paris a été un des événements où il y a eu énormément de femmes aussi sur les barricades. Et en Espagne, c'était un peu pareil, quoi. C'est vraiment le peuple qui s'est pris en main. Et qui a, c'est pas une guerre qui, comme on veut nous le faire croire, qui opposait le gouvernement, les gouvernementaux contre les nationaux. comme il s'appelait. C'est quand même vraiment, en même temps que cette guerre civile qui opposait ces deux camps, donc les républicains et puis les nationalistes, on avait quand même au milieu un peuple qui voulait une véritable révolution dans le pays et qui n'était pas, qui voulait pas forcément une guerre, mais qui voulait changer les...
N'empêche, une fois les événements terminés, les femmes, on les renvoie à la cuisine.
Alors oui, alors même dans le... Alors je vais dire un truc par rapport aussi à Mujeres Libres. C'est vrai que elles ont eu aussi beaucoup de problèmes de machisme au sein même du mouvement anarchiste. Faut pas oublier que les Espagnols, c'est quand même des Espagnols, quoi.
Non, mais qu'on est en 36, qu'il y a beaucoup de choses.
Mais voilà, oui.
Ça, parce tu le, comment dire, c'est des questions qui ont fait débat et que toi tu évites pas dans te...
Ah non, j'évite pas, justement. Moi, ça m'amuse bien de voir qu'il y a quand même derrière quelques anarchistes un petit soupçon de machisme qui reste, heureusement, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas se voiler la face.
Tu remarques quand même que les choses ont bien changé maintenant.
Ah ben oui, ça, c'est sûr, ouais. On va être hypocrite jusqu'au bout. Non, mais...
T'avais plutôt l'air de regretter en disant, mais ça c'est sûr. Tu joues mal l'hypocrisie, alors.
Non, mais ce qui s'est passé, dans mon prochain tome, parce que moi je suis déjà en train de réfléchir au tome 5, justement...
Toujours en 36.
Toujours en 36, oui. Le 5 et le 6... Et le 6 finit le cycle 36 avec la fin de la bataille de Madrid. Mais dans le 5, justement, c'est le moment, on est en octobre 36, et c'est le moment où on a interdit aux femmes d'aller au front. Et celles qui étaient au front, on les a mis aux gamelles et à laver le linge et les chaussettes des mecs qui allaient combattre.
Déjà.
Et alors, oui, alors même les anarchistes, même dans la colonne de Ruti, ils ont quand même, pris à la lettre le commandement du gouvernement, parce que ça venait du gouvernement, pour une bonne raison, c'est que au début de la guerre, on a beaucoup misé sur l'image des femmes. On montrait énormément de photos, d'ailleurs j'ai des journaux de l'époque français, qui sont assez misogynes pour ça. Et donc, on voit des photos de femmes, et donc, dans la presse internationale, on se moque de ces révolutionnaires espagnols qui partent avec leurs femmes au front, quoi. Donc, il y a une image, en fait, cette image héroïque, moi je trouve ça héroïque de la femme avec une grenade ou avec un fusil et qui même les femmes s'engagent, ça veut dire que le problème est profond dans la société. Donc à partir du moment où cette image est récupérée par la droite des autres pays, on profite pour encore enfoncer un clou du machisme et se moquer de ces hommes qui partent avec des femmes, c'est même pas ces femmes qui partent au front, c'est ces hommes qui partent avec des femmes, ils amènent alors. Voilà. Alors ensuite, il y a eu aussi...
Excuse-moi, juste deux mots, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait rapprocher de la Commune, où les femmes ont été tournées en dérision pour être combatives, pour être dans les barricades, pour de la même façon. Hein. Voilà.
Et
je te redonne... Comme tu avais déjà comparé avec la Commune, c'est encore un rapprochement possible.
Oui, tout à fait. Tu m'as coupé la parole, donc je ne sais plus où j'allais, mais c'est pas grave, on va enchaîner sur autre chose.
Oui, tu craignais de monologuer, voilà.
Voilà, oui. Et puis dès qu'on me coupe la parole, tu as vu, je ne suis pas content.
Non, parce que tu es parti donc du fait que tu serais en octobre 36 avec le cinquième volume.
Voilà, ah oui, c'était le cinquième volume. Bon, voilà. Donc, voilà. Oui, c'était pour dire que, en octobre 36, on renvoie les femmes au foyer, ou du moins, elles pouvaient être sur le front, mais à l'arrière du front, pour s'occuper de l'intendance,
pour les blessés,
etc. Ou faire du secrétariat. C'est vrai, ça. La femme de Durruti était sa secrétaire au front.
Ben voyons.
Émilienne Morin, voilà. Par exemple.
Je crois qu'il avait un curé aussi comme secrétaire.
C'est vrai, c'est, oui, c'est possible. Ah ouais, ouais, ouais. J'avais vu ça, qu'il y avait certains curés qui étaient engagés. Ouais, ouais, mais c'était des curés devenus anarchistes. Mais il avait aussi auprès de lui des militaires de carrière, des anciens militaires de carrière, républicains, mais qui étaient là comme conseillers militaires. Voilà, ouais. Mais le coup du curé, tu me rediras, parce qu'il faut que je m'en serve dans une des prochaines
tomes. Parce que je pense que graphique, ça, enfin, je pense qu'il n'était pas en soutane, bien sûr.
Ouais, ouais, je pense. Ouais.
C'est pareil, on a reçu Gloria Gargallo, et qui parlait d'un couvent de bonnes sœurs. Il y a des bonnes sœurs qui ont quitté la... on ne dit pas la soutane, je ne sais pas comment on dit.
La robe.
La robe, et qui se sont mariées, ou...
Ouais, non,
ça, c'est intéressant. Ça, graphiquement, je pense qu'il y a des choses à faire.
Oui, oui, oui. Mais alors, il y a un film, c'est Libertarias, dans lequel il y a justement un des meneurs CNT qui est un ancien curé dans ce film. Mais c'est un film qui n'est pas diffusé, je crois, en France, qui est uniquement en espagnol.
Voilà, pas en français, en tout cas. Oui.
Pas en français, oui. Avec Victoria Abril.
Et tes projections, alors, parce que bon, tu dis que tu vas aller jusqu'en 39, tu as déjà une idée, apparemment...
Tu
fais correspondre pour l'instant... Non. Tu es en capacité déjà à faire correspondre le tome 5, donc celui qui arrive.
Oui, parce qu'en fait, le 5 et le 6...
voilà, et j'allais à venir, bon, justement.
Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait le 5 et le 6.
Je suis curieuse.
Parce que quand j'ai fini le 4, de suite, j'attaque la suite. Hein. Je sais à peu près, j'ai une idée générale de ce que va faire Hermo, hein, de son histoire. Mais à chaque fois, j'écris chaque tome... une fois que le premier est fini, je fais le second, etc. Donc, à la fin du 4, j'ai commencé à écrire le 5, mais j'avais tellement de choses à dire dans le 5 que j'ai fait en 2. Donc, j'ai divisé en 2, et il y aura un 5 et un 6, parce que il y a le premier qui est d'octobre jusqu'en octobre-novembre, et c'est... Durruti, à la fin du tome 5, Durruti part sur Madrid, et le tome 6, c'est la bataille de Madrid jusqu'à la mort de Durruti. Voilà. Et puis il se passe des choses, ça c'est l'histoire, mais après il se passe des choses.
Il y a des révélations.
Ouais.
Savoir qui est Durruti.
Question, moi j'avoue que je ne connaissais pas tes bandes dessinées. Est-ce qu'il y a des enfants qui les lisent?
Oui, enfin, il y a aussi des enfants qui les lisent, et j'ai des petits fans qui, dès que le tome suivant sort, ils se précipitent pour l'acheter, pour le commander, donc je pense que ça leur plaît. Et puis alors surtout, disons que le premier tome peut être lu par un enfant sans problème. Moi, je préconise aux gens à partir de 12 ans, mais je sais que j'ai des gamins de 9 ans, parce qu'ils sont... Après, ça dépend de la capacité de lecture du gamin et de compréhension. Bon, mais à partir du tome 2, j'ai l'impression quand même qu'au niveau du scénario, c'est un peu plus complexe, parce que y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, etc. Le scénario est peut-être un tout petit peu plus complexe, mais en même temps, le gamin qui a commencé à 12 ans, un an après, il a eu l'autre, il avait quand même 13 ans, et puis ainsi de suite, et là, je me retrouve avec des gamins de 15-16 ans, donc c'est bon. Ça va.
Moi, je peux témoigner effectivement du plaisir de lecture d'un... Il a 12 ans, ouais. et un jeune garçon qui attend les volumes, effectivement. Donc,
c'était pas que du marketing que je faisais.
Alors moi, je m'étais raconté, oui, mais c'est parce que lui aussi baigne dans des choses et bon, à t'entendre, c'est plus répandu que ce que je croyais, parce que pour moi c'était vraiment une BD adulte, et je m'étais dit, tiens, quand même, il lit ça, il a 12 ans. Non, c'est quelque chose que tu as constaté. Il y a des enfants qui lisent ta BD, quoi, je veux dire.
Ben, j'espère. oui, ils font pas que regarder.
C'est une BD adulte au départ.
Alors, moi, je me suis pas posé cette question. Ah. J'ai écrit sans me dire, voilà, mon public, ça va être ceci ou cela. Bon, évidemment, on aborde des questions politiques aussi. Mais on peut le lire. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'on peut avoir une lecture. On voit une aventure et puis on suit une aventure. Voilà, comme on lirait un Tintin. Et puis après, il y a l'autre niveau de lecture plus adulte où on s'aperçoit du contexte politique de la chose. Hein, voilà. Et puis il y a un troisième lecteur qui va être plongé, qui va se plonger. Et moi, c'est plutôt pour celui-là, hein, qui va se plonger dans un univers. Et qui va être amené par l'histoire et baigné par cette histoire de guerre d'Espagne. Et le but, c'est d'arriver à faire penser au lecteur qu'il vit cette guerre d'Espagne, qu'il vit cette révolution. Et un peu comme... moi, il y a certains films, après avoir vu le film, j'ai l'impression d'avoir... vécu un moment, quoi, avec les personnages, etc. J'essaye de faire ça avec la BD. Après, c'est au lecteur de me dire s'ils se sont fait prendre par ça ou pas, quoi.
Mais, une petite pause et on continue.
Ils nous clouent, nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en le feu. Mais on tient, on s'en fout, on en a coup pour coup. Le feu,
le feu.
Ils nous clouent, nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en fout. Le feu,
le feu.
Mais on tient, on s'en fout, on en a coup pour coup. Le feu,
le feu.
C'est la bataille de l'Èbre, au cœur de la guerre, qu'il passe cette fois-ci, la guerre est finie. Allons, brigadistes, remontons la piste. Point de non-retour comme 666. Terre desséchée, tronc déchiré, soleil plombé sur les corps éventrés. Camarades hébétés, qu'on vient relever. Tranchés, effondrés, ça va recommencer. Ils nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en fout. Le feu,
le feu.
Mais on tient, on s'en fout, on rendra coup pour coup. Le feu,
le feu.
Ils nous clouent, nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en fout. Le feu,
le feu.
Mais on tient, on s'en fout, on rendra coup pour coup. Le feu,
le feu.
Bon nazi, obus fasciste, balle de la phalange, couteau du terceau. Coup des explosions, terre en fusion. J'avale à plein poumon, j'en perds la raison. Bras arrachés, du sang à pleine giclée. Mon voisin du rang vient juste de morfler. Agrippé à mon fusil rouillé. Il me reste 5 balles pour quand ils vont charger. Nous clouons, nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en fout. Le feu,
le feu.
Mais on tient, on s'en fout, on rend un coup pour coup. Le feu,
le feu.
Ils nous clouent, nous pilonnent, nous écrasent, nous m'en fout. Le feu,
le feu.
Mais on tient, on s'en fout, on rend un coup pour coup. Le feu,
le feu.
Un instant d'accalmie, une dernière mélodie. Puis les barbares d'en face qui chargent à grands cris. Nos balles les mouchent, nos fusils les couchent. Mais s'il en vient toujours, bientôt nos corps se touchent. Corps à corps, baïonnette aiguisée. Dans le bide du premier qui sort le parapet. À coups de pelle, à coups de pistolet. La mort démêle nos corps exténués. Pilonne, nous écraser, nous en plus.
Le feu.
Mais on tient, on s'en fout. On rend la coupe pour coup.
Le feu.
Et nous clouons, nous pilonne, nous écraser, nous en plus.
Le feu.
On les a repoussés, chargeurs vides, fusils cassés, entourés de morts, de cadavres entassés, presque tous blessés, nos corps ensanglantés. La folie des hommes qui nous a emportés nous laisse exsangues, hagards, vides et troués. On reste 6, comme 666. 1966. Puis là, nous écraser, nous la fout, le feu. Les on tient, on s'en fout, on rend la queue pour coup, le feu.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et vous écoutez l'émission Hachaïra, animée par le cercle Jean Barré de la Fédération anarchiste, un jeudi sur deux de 21h à 22h30. Ce soir donc, nous avons l'honneur de recevoir Bruno Lhôte qui nous a parlé d'Hermont, la bande dessinée dont il vient d'éditer le quatrième volume. Alors moi je voulais savoir par rapport à l'édition, comment tu te situes, quel choix tu fais, comment tu te débrouilles avec pour la vente, pour etc.
Alors au début je suis parti dans cette aventure parce que ça aussi ça a été une aventure, l'édition quoi. Au début je me disais ben voilà, il faut aller voir un éditeur et puis c'est les éditeurs qui font les livres, donc voilà, mais moi je suis allé avec mon projet voir tous les éditeurs de BD et alors je voulais une BD en noir et rouge, petit format et qui parle de la guerre d'Espagne, et ça a plu à personne, alors je sais pas, je veux pas. Et je pense que aujourd'hui j'ai certains éditeurs qui me regardent différemment. Ouais. J'ai même eu des propositions que j'ai rejetées. Et parce que bon, évidemment, j'ai fait tout le boulot maintenant, alors c'est facile. Mais voilà, donc moi j'ai décidé, puisque cette bande dessinée était finie et était dans des cartons à dessin, de faire quelque chose. Donc et puis j'ai été poussé par mes copains aussi qui me disaient alors tout le temps, alors quand est-ce qu'elle sort, et puis ça devenait un peu l'Arlésienne cette BD. Donc je me suis dit bon, mais je vais craquer mes économies, mais j'avais pas d'économie, donc j'avais du mal. Donc j'ai été voir un imprimeur que je connaissais, bon, il voulait bien me faire crédit tout ça, et puis surtout j'ai lancé une souscription. Et là, j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu plus de 200 souscriptions. Et avec ça, j'ai pu lancer mon premier album. Et puis après, le premier album a payé le deuxième, et ainsi de suite, quoi. Et voilà. Et donc, alors la distribution, elle se fait sur Bordeaux. Il y a une librairie. Enfin, je pourrais dire même sur la France, parce que je faisais un peu de diffusion, notamment à Paris, rue Lamelot. À la Fédération anarchiste, à la librairie Publico, et puis à Quilombo aussi, deux librairies anarchistes, mais je ne cherche pas trop à diffuser en librairie, parce que au niveau, enfin pour gérer tout ça, c'est comme j'ai pas de diffuseur, alors tout ça c'est un peu compliqué peut-être pour les gens à comprendre, mais le livre il passe, il y a un éditeur et après il y a un diffuseur qui envoie les livres au libraire, après les livres quand ils sont pas vendus ils sont renvoyés au diffuseur qui le ramène à l'éditeur et l'éditeur les détruit, voilà, c'est en gros c'est ça, alors que moi je voulais pas passer du tout par ce système capitalo machin là où il y a 30% par-ci, 30% à ceci, à cela, et puis plein d'intermédiaires. Et d'ailleurs, j'avais pas les moyens de le faire, donc j'ai pensé à un truc qui était beaucoup plus facile, c'est de vendre. Alors j'ai une librairie à Bordeaux, deux même, il y a Oscar Hibou et BD Fugue Café qui vendent ma BD, mais sinon les autres librairies, j'en avais une vingtaine dans toute la France et j'ai un peu laissé tomber parce que c'était trop compliqué à gérer. Et je fais, par contre, je me déplace dans des salons, des fêtes de certaines parties, etc. Plutôt plutôt de gauche, sinon gauchiste. voilà, et je diffuse comme ça. Et puis aussi par correspondance avec Internet, c'est aussi facile. C'est www.libredimage.com. .fr, pardon. C'est un gros erreur. Donc libre d'image avec un S, .fr.
Non, c'est pour que tu répètes.
Ah ben voilà, c'est fait.
Oui, oui, je crois qu'il ne faut pas oublier le S parce qu'il y en a un autre sans S et.
Ah bon?
Ouais. Et c'est pas le bon.
Ah d'accord.
Donc il ne faut pas oublier le S.
Bon, sinon les gens ils vont dans un moteur de recherche bien connu et puis ils font Bruno Lott. Et puis, normalement, il devrait tomber sur mon site.
Et avec Hermo.
Et Hermo. Alors, Hermo, il y a un autre site. C'est, je crois qu'ils vendent des pompes, je sais pas, un truc comme ça. Donc, c'est pas celui-là. Donc, avec Hermo, on trouve aussi. Mais il vaut mieux associer Hermo, bande dessinée, ou Hermo, Lot. Voilà.
Lot, L-O-T-H.
L-O-T-H.
Et Hermon, c'est l'origine, c'est un prénom connu.
Alors ça, c'est les secrets de fabrication.
Je n'osais pas poser la question.
Non, en fait, je cherchais un prénom qui fasse espagnol, bien sûr. C'est un petit espagnol, mais je voulais pas tomber dans le José, Pablo, trop connu. Hein, je voulais quelque chose d'un peu original. Donc j'ai pensé à Guillermo. Et Guillermo, ça a donné Hermo.
D'accord.
Voilà.
Ok. Par contre, bon, juste pour détailler un tout petit peu plus, il a bien fallu quand même que tu te fasses... Parce que tu dis, bon, je vais dans les salons et tout, mais... Et puis par correspondance. Alors, dans les salons, d'accord. Parce que là, tu as une prise directe avec des gens qui, potentiellement, peuvent être... Enfin, sont intéressés ou pas. Mais pour faire par correspondance... Il faut que les gens
C'est-à-dire que par voilà, mais par correspondance, alors c'est souvent les gens qui ont acheté le premier tome et qui me revoient pas, qui peuvent pas aller forcément me suivre dans un salon comme ça, donc ils achètent les autres tomes par correspondance.
Et qui ont des amis peut-être, des cadeaux à faire.
Il y a des gens qui ont des amis, ouais, c'est vrai, ça existe.
Non, mais au départ, il faut quand même connaître déjà la... Mais l'existence voilà, de la bande dessinée pour pouvoir... Bon, mais...
Et tu t'es engagé à faire un tome par an, c'est ça?
Ah, je suis pas engagé, mais c'est tant que ça me plaît, ça, oui. Ouais.
Et le rythme de croisière.
Voilà, oui. En réalité, il me faut 9 mois pour faire un tome.
C'est
un bébé.
Bizarre.
Ouais, non, mais c'est la vérité.
C'est une gestation.
Voilà, il me faut le temps de faire ça. Et puis, le temps qui me reste, c'est du temps de réflexion. Des fois, je fais autre chose aussi. Je fais d'autres BD. Par exemple, là, j'ai participé à une BD sur les légendes celtes. Où j'ai fait, alors, c'est un gros volume. Chez petit à petit et j'ai fait simplement 7 pages, voilà. Donc ça me permet de faire comme ça d'autres choses, ou alors peut-être des dessins pour des livres
pour j'avais le projet de l'embrigader pour Réfraction, comme il y a un prochain numéro sur le féminisme et comme ton dernier tome c'est sur les mujeres libres. On va peut-être pouvoir faire quelque chose.
Ah oh, ben oui, ça c'est sûr. Hein. Le thème est bien choisi, donc ça correspond.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire de plus ou pas ou... Est-ce qu'on t'a posé les bonnes questions?
Ouais, je sais plus.
Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose? Comme disait André.
Moi, je voulais te poser une question parce que souvent pas souvent, je sais pas, moi j'ai vu des bandes dessinées historiques où il y avait, à côté de la bande dessinée, il y avait de la documentation, d'iconographie ou des textes, et donc, et comme je vois aussi la plaquette que tu as présentée qui le fait un peu, pour savoir si tu le faisais dans tes bandes dessinées ou pas.
Oui, alors à partir du tome 4, j'ai tellement eu dans les 3 premiers tomes, en vendant les sur des salons, il y a des séances de dédicaces, et effectivement ça permet de discuter avec les lecteurs. ça permet de discuter avec les lecteurs. Et pendant ces discussions, je me suis aperçu que les gens me posaient énormément de questions sur la guerre d'Espagne. Et moi, je parlais comme ici pendant des heures avec chaque personne parce que j'avais envie de leur expliquer plein de choses. Et puis mes explications suscitaient d'autres questions, etc. Donc je me suis dit, bon, ça n'empêche pas que ça continue à discuter quand même autour de mon stand quand je fais un salon. Mais par contre, j'ai sorti une petite plaquette de 8 pages où il y a la chronologie de l'année 36 et puis plein d'explications sur la guerre d'Espagne, plein de photos. Dans mon tome 4, cette petite plaquette est donnée avec le tome 4. Et en plus, dans le tome 4, il y a une page aussi là qui remet un peu certains événements qui se passent dans le livre. Notamment, on voit des photos qui correspondent à des personnages que je mets dans le livre, notamment Federica Monsigny et puis d'autres. Voilà.
Ok.
Bien. Bon, mais...
Donc on va rappeler le titre, le dernier titre ou tous les titres, je ne sais pas. Donc déjà paru, il y a eu Le Magicien, il y a eu les Barricades au pluriel, Une Nuit en Aragon, et là le quatrième volume, donc Mujeres Libres. Donc c'est la bande dessinée avec comme personnage principal Hermo, qui est un enfant et qui se déroule donc avec au cours de la révolution espagnole.
Combien coûte un volume?
15 euros.
Voilà. Donc donc les gens qui t'auraient entendu ce soir et qui souhaiteraient te contacter, ils peuvent faire quoi? Donc www.libredimage, au pluriel, image.fr.
Voilà.
Mais ils peuvent t'écrire.
Depuis le site, il y a mon contact, donc ils peuvent m'envoyer un petit mot.
Okay.
Ou ils peuvent trouver la BD aussi chez BD Fugue. C'est juste à côté de l'Utopia.
Ouais.
Ouais. Et t'as pas du tout, c'est peut-être pas par rapport à la librairie du Muguet, t'as pas.
J'ai eu des propositions de la librairie du Muguet plusieurs fois en me disant d'apporter les bouquins, mais le problème c'est les horaires d'ouverture qui correspondent pas trop au moment où je viens sur Bordeaux, parce que c'est le soir. Et, pourquoi pas faire un dépôt là-bas. Ouais.
D'accord. En tous les cas, pour l'instant, c'est BD Fugue et c'est Oscar Hibou.
Voilà.
Sur Bordeaux. Les deux gros magasins de bande dessinée de Bordeaux, voilà. En fait. D'accord, mais merci. Hein.
Merci, Bruno. Oui.
Une musique avant de...
Une musique avant, oui.
Poursuivre, peut-être, sur les points d'actualité.
C'est une chanson tout spécialement dédicacée à tous les sans-papiers. Cette chanson s'appelle Hoy Me Voy. C'est l'histoire d'un mec qui est obligé de partir de chez lui parce qu'il n'y a plus de travail et voilà quoi. Ok, merci. avons Monsieur Arnaud de Louise Attaque.
Vous êtes sur l'acte des ondes de 90.10 et vous écoutez l'émission Achaïra, animée par le cercle Jean Barbier de la Fédération anarchiste. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez nous contacter au 05 56 50 69 99. Et si vous voulez nous écrire, il faut écrire donc à cercle-jean-barbier@fédération-anarchiste.org. Donc, deuxième partie de l'émission, divers points d'actualité. Je crois que c'est Philippe qui va commencer à nous parler de l'identité nationale.
Donc, l'identité nationale, donc, c'est par rapport à deux articles qui sont sur le monde libertaire, un de la semaine dernière et un cette semaine. Donc, il y a un premier article, c'est Maurice Raffius. Qui se rend compte que la question de l'identité française ressort des tiroirs toujours dans les périodes de difficultés économiques et sociales. Et cette question masque mal ces relents xénophobes et racistes qui ponctuellement contaminent les citoyens français. Donc il y a Éric Besson qui ressort la nécessité de faire chanter au moins une fois par an et la Marseillaise et réclame aux candidats à l'accueil en France de savoir parler et s'exprimer correctement en français. Avant lui, Alain Madelin, en 86, clamait vouloir rester entre Français de France ou voulait au moins limiter l'installation des intrus. En juin 91, Chirac donc tenait son fameux discours sur le bruit et l'odeur, tandis que Poniatowski dénonçait l'occupation du pays par ses immigrés. Lionel Jospin, vu que la gauche aussi en a mis quelques couches, en janvier 2002, lors de sa campagne pour l'élection présidentielle, il tensait ses étrangers n'ayant pas vocation à rester en France. Parler d'identité nationale permet de réveiller les sentiments nationalistes. C'est vrai que Sarkozy suit la voie de ses glorieux prédécesseurs et il porte ses rejets jusqu'à la caricature. Mais c'est vrai que Maurice Rafus se pose la question de quelle identité nationale est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est celle des smicards qui n'ont rien à attendre d'un pouvoir qui leur explique qu'il faut se lever tôt et qu'il faut travailler plus pour gagner plus? Est-ce que c'est l'identité des nantis qui ne rêve que d'un État fort héritier de Vichy? En tout cas, les policiers, eux, ils ont bien saisi la teneur du débat et ils intiment de décliner leur identité, la haine dans le regard face à leur victime choisie. Ils sont les héritiers d'autres policiers et d'autres gendarmes qui, après avoir servi Vichy, ont témoigné la même ardeur pour De Gaulle en août 1944. Ensuite, l'identité nationale, on aurait espéré qu'elle corresponde aux revendications des grandes heures de la France révolutionnaire, des barricades de juin 1848 ou de la commune de Paris. Mais bon, aujourd'hui, on ne tue plus par fusillade. La répression touche des millions d'exilés de l'intérieur. Voilà. Et ensuite, le deuxième article, c'est un article de Jacques Langlois qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'il essaie de chercher une identité nationale plurielle. Alors, la France a toujours été un melting pot. Alors, les Celtes, qui ont été les premiers habitants, ont été noyés dans un certain nombre d'invasions, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. La Troisième République a puisé dans la légende des ancêtres gaulois pour faire comprendre aux salariats et à la paysannerie exploités au profit de la bourgeoisie quels étaient les intérêts communs. Donc, ses intérêts, c'était de récupérer l'Alsace et la Lorraine, de conquérir du moins l'Indochine et l'Afrique, ou bien d'achever l'assimilation de l'Algérie, en omettant, bien sûr, que cette construction s'était faite aussi par mariage, par guerre ou par centralisation, avec la négation des différentes spécificités régionales françaises. Ensuite vinrent les différentes vagues d'immigration, espagnole, italienne, polonaise, maghrébine. Et ce que Jacques Langlois dit aussi, c'est que cette nation française, c'est un construit politique et étatique de l'État et des différents gouvernants. Donc ça passe par les institutions, les lois communes, la police, la guerre. Le nationalisme latent, la langue imposée, donc autant de raisons de ne pas adhérer à cette conception de la nation. On pourrait penser qu'une autre idée de la nation, elle viendrait de l'adhésion à des valeurs communes, partagées, celle de 1789. Or, le droit de se syndiquer, ça a été seulement en 1884, les assurances sociales en 1945, et les gouvernements ont tiré sur le peuple aussi bien en 1848, en 1871, en 1891, etc. etc. Voilà. Donc la nation est une corollaire de l'État et il y a le plus souvent un assujettissement des peuples par la guerre et la domination. Il y a eu un seul moment, ça a été pendant les Trente Glorieuses, entre 45 et 75, qu'il y a eu beaucoup de réalisations sociales, mais depuis 1974, avec l'arrivée du néolibéralisme, il y a eu une casse de ces acquis, et donc le néolibéralisme a pris le pas sur la nation. Donc ensuite, il essaie de préciser ce que peut être l'identité au niveau personnel et au niveau du groupe. L'identité personnelle, c'est être admis comme égal, car différent parmi les autres. C'est une appartenance à différents groupes. Et l'identité d'un groupe, c'est ce qui le distingue parmi les autres. C'est une relation entre demande d'un groupement d'être admis. Et cette identité, elle est évolutive, elle n'est pas fondée sur un type humain, ni sur une religion, ni sur l'appartenance à un État. C'est l'appartenance à un système de valeurs républicaines telles que liberté, justice, solidarité et laïcité. Or, ce système a été détruit au nom du commerce international et de la finance mondiale. Voilà.
Alors, en gros, j'ai compris, il ne touche pas mon melting pot, c'est ça?
Dans le deuxième article, oui. Tout à fait.
C'est vrai que c'est... je ne sais pas si vous avez entendu, là, sur... Alors, moi, je ne connais rien en foot, mais... mais justement, étaient incriminés, bon, ben, des jeunes d'origine algérienne, qui, donc, c'était l'Algérie contre l'Égypte, c'est ça?
Algérie-Égypte.
Voilà. Et, mais en même temps, il y avait un match de foot, France contre Irlande. Hein. Alors, moi, je connais rien en foot, mais j'ai juste...
Qui a fait polémique aussi.
Alors, ça, je sais pas, mais moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que tu avais des présentateurs qui se posaient des questions, mais qui vraiment les mettaient mal. Mais comment vont faire ces jeunes d'origine algérienne et qui ont la nationalité française, est-ce qu'ils vont soutenir l'équipe de France ou l'équipe... Enfin bon, un truc de fou. Encore, ça aurait été Algérie contre France, à la limite, on aurait pu comprendre que éventuellement ça puisse traverser les esprits. Mais d'ailleurs, ça a été repris par Le Pen, non, sur Marseille, sur le match... Non, vous n'avez pas entendu tout ça?
Si.
Moi, c'est à la radio j'ai entendu. Voilà, bon. Enfin, pour revenir à l'identité nationale, c'est vrai que apparemment la question, c'était impossible d'avoir une représentation qui dépasse le fait qu'on puisse avoir une seule identité nationale. Alors qu'on peut avoir effectivement des parcours qui font qu'on relève de plusieurs cultures et pourquoi pas de plusieurs identités. Donc,
oui. Voilà. C'est vrai que l'identité nationale, c'est pas quelque chose d'inné. Ça se construit, ça se transforme, ça se développe. Ça, oui. Ouais. Selon les gens qu'on rencontre, selon son parcours, selon beaucoup de choses.
Ce n'est qu'une partie des identités. Oui.
Exact. En plus. Ah oui. En plus. Certes. C'est pour ça que je parlais j'ai fait un glissement sur l'identité culturelle. Mmh. Parce qu'au fond, c'est peut-être plus de ça qui
pourrait être question. Mais à une époque, on était choqués de ces jeunes qui préféraient les Beatles à Michel Sandou.
Ah oui. Mais oui, bien sûr.
C'est pas la bonne langue. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait? Je poursuis alors, c'est moi?
Oui. Non. On va nous parler du mouvement étudiant autrichien.
Voilà, mais je vais essayer en quelques phrases. Donc pour revenir sur un mouvement qui a démarré le 30 octobre 2009, mais qui est toujours en mouvement, précisément, et qui concerne donc la situation des universités autrichiennes, qui, comme dans beaucoup d'autres pays pour ne parler que de l'Europe, ont vu leurs conditions se dégrader peu à peu, concernant autant le droit de scolarité qui augmente énormément, mais aussi le recul de l'accès garanti à tous ceux qui sont désireux d'étudier. Et de toute façon, et tout va ensemble, le manque de place dans les cursus choisis. Deux causes principales ont toutefois représenté une précipitation du mouvement, et elles ont concerné, et elles sont de toute façon fondamentales, c'est la question du manque de financement public, donc de la volonté politique de financer les universités, ainsi que l'introduction hâtive de, et alors là ça va vous rappeler quelque chose, de la LMD, donc licence, master, doctorat, qui de la même façon a été introduit de façon hâtive, et là on retrouve ce qu'on a connu nous il y a quelque temps, et donc des réactions très importantes. Ces deux causes ont été utilisées pour restreindre en fait l'accès à des filières dans leur ensemble. Les raisons de se mobiliser donc ne manquaient pas, et le jeudi 22 octobre a commencé un rassemblement d'étudiants. C'était au départ les étudiants des Beaux-Arts et de l'Université de Vienne, et très vite ces manifestants se sont décidés à occuper l'Audimax de l'Université de Vienne, qui est le plus grand amphi de cette université, et même d'Autriche. La nouvelle de l'occupation s'est alors répandue, et de nombreux étudiants sont venus rapidement prêter main forte. Alors, au départ, c'est une protestation donc spontanée, mais qui en moins de 8 jours est devenue une mobilisation de la quasi-totalité des universités autrichiennes. Ainsi, l'université de Vienne, par exemple, est-elle occupée en permanence par plusieurs milliers de personnes. Et en parallèle à tout ça, ces personnes se sont organisées en groupe pour se charger de résoudre les différentes problématiques de logistique et autres, l'approvisionnement, les premiers secours, etc. Le soutien juridique aussi, enfin bon. Donc, auto-organisation de groupe, n'est-ce pas? Par ailleurs, ils organisent une centaine de groupes de travail thématiques qui discutent d'alternatives possibles, alors que toutes les revendications qu'ils ont sont rejetées systématiquement par le gouvernement. Une manifestation, d'ailleurs, a rassemblé dans Vienne 40 000 personnes. Donc, pour l'Autriche, c'est la plus grande manifestation universitaire qu'elle n'ait connue. Et sachant que 40 000 personnes, ça se compare à l'université de Vienne qui compte environ 70 000 étudiants. Donc on se rend compte que c'est quand même un mouvement massif. Les revendications, évidemment, elles sont larges. Elles vont vous rappeler de bons souvenirs. Donc le droit de chacun à accès à l'enseignement supérieur, la démocratisation et le financement suffisant des universités. Pour l'essentiel, hein. De nombreuses organisations autrichiennes et étrangères se sont solidarisées, et de nombreux enseignants soutiennent également les revendications des étudiants. Donc on retrouve un contexte qui se rapproche fort de ce qu'on a connu il y a combien un an et demi. Bon. Et d'ailleurs, après 2 semaines, la protestation s'est étendue non seulement à toute l'Autriche, mais également il y a une contamination, on va dire, de l'Allemagne. Bon, il faut rappeler aussi que le 5 novembre étaient prévues diverses actions sur le thème de la formation dans près de 30 pays, et sous le mot d'ordre « l'éducation n'est pas à vendre », et que bon, le postulat, ce serait que, effectivement, dans la mesure où les revendications et les attaques sont du même ordre, qu'il y a un rapprochement des étudiants, ce qu'ils ont déjà tenté de faire. Donc ça relance un petit peu cette idée. Ce qui est intéressant aussi, qui se rapproche du mouvement tel qu'on l'a connu il y a 12-18 mois ici en France, c'est que les responsables des jardins d'enfants, les professeurs, les écoliers, les syndicats et beaucoup d'autres groupes se solidarisent avec les étudiants sous le slogan « Formation libre pour toutes du jardin d'enfants à l'université ». Et nous, c'est vrai qu'on avait ce truc-là aussi de la maternelle à l'université. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de hasard et que si ça se passe comme ça, c'est que les problématiques sont suffisamment proches pour faire naître des revendications également proches. Voilà. Donc je voulais parler de ça parce que il me semble que eh bien que il y a eu la France, il y a eu la Grèce, maintenant il y a l'Autriche et que effectivement si des étudiants entendent, écoutent, si des gens proches de l'université, c'est toujours intéressant d'essayer de se rapprocher d'homonymes, y compris à l'étranger.
Oui. Voilà. Alors c'est vrai que la situation en France, pour le moment, à l'université, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a eu à Lille et à Toulouse des AG qui se sont déjà tenus. Voilà, donc... Et on voit déjà comment ça se passe dans les universités. Quoi, hein. Voilà, j'ai sous les yeux l'interview du président de l'université de Clermont-Ferrand 1, qui dit « Lorsqu'un enseignant nous fait gagner de l'argent grâce à ses contrats de recherche ou à la formation continue, nous réfléchissons au partage des recettes. Nous élaborons un système de primes pour les responsables de formation. J'ai débauché les meilleurs pour constituer mon conseil d'administration, à l'instar du président du holding Limagrain ou du numéro 2 de Michelin, car je voulais des compétences fortes. » Enfin bon, on a tout le... Il dit « Bon, ça se gère maintenant en partie comme une entreprise. » Voilà. Et c'est vrai que en plus de cela, les universités sont mises en concurrence. Il y a 50 établissements qui sont en responsabilité et compétences, qui vont être en responsabilité et compétences élargies. La gestion va être de plus en plus serrée. Pour ce qui est de la réforme du recrutement et de la formation des enseignants, elle se fait dans un... les étudiants en IUFM à cause de la mise en place des stages 108 heures. En effet, les étudiants seront en responsabilité, mais sans formation ni expérience. Et en plus de cela, il y a un doute sur la garantie que les étudiants n'auront pas à payer la double inscription administrative et pédagogique, l'une à l'université et l'autre à l'UIFM cette année. Oui, c'est intéressant. Oui, hein. Voilà. D'autres choses, la précarité va encore s'aggraver pour les doctorants, puisque il y a des contrats nouveaux qui sont créés, l'assistant contractuel d'enseignement et de recherche universitaire qui remplace celui d'attaché temporaire. Ces enseignants exerceront de fait des activités de maître de conférence. Ceux qui seront recrutés à temps plein gagneront environ 1800 euros net par mois. Les plus nombreux, ceux qui seront recrutés à mi-temps, gagneront environ 1140 euros net. Voilà, alors c'est une disposition qui provoque une grosse contestation, par exemple dans les universités de Limoges et de Nancy. Il faut savoir que l'université de Limoges, c'est un des 5 établissements de pôle de recherche et d'enseignement supérieur en Centre-Atlantique, dont fait partie l'université de La Rochelle. Il y a aussi le problème de la recherche qui est en partie en démantèlement. Voilà. Donc, pour le moment, pas de bruit, mais une situation très tendue. On va voir ce qui se passe.
Oui, puis après, il faut dire à quoi ça correspond, pas de bruit. C'est pareil, l'Autriche, on n'en a pas du tout entendu parler. La Grèce, il fallait aller pêcher les infos. Bon, et là, c'est parce que c'est pas du tout relayé par les médias. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la lutte et qu'il se passe pas des choses. Quand on pense qu'il y a quelque temps de ça, il y avait des étudiants de Perpignan, qui s'étaient mis en grève de la faim, pour que les médias, enfin, veuillent bien parler d'eux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit, quoi.
Alors au lycée, bon, on n'en a pas encore parlé ici, mais la réforme du lycée se construit petit à petit avec les différents rapports qui se succèdent. Alors du côté syndical, c'est l'euphorie, hein, ils approuvent. Nous retrouvons dans ce plan de réforme des revendications que nous portions. Ça, c'est Gérard Raschieri pour le FSU. La direction du SNES, le président de la République, a tenu compte des mobilisations de l'année dernière et a répondu à des demandes fortes du SNES. Le SE, UNSA, si modeste soit-elle, ses propositions vont dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins des lycées. Tous se rapprochent du SGEN qui salue des mesures qui vont dans le bon sens. Seuls quelques syndicats se montrent critiques, comme Sud, ou franchement hostiles, comme le SNFO. Côté organisation lycéenne, bon, ouais, la plupart sont, enfin, la principale est inféodée au PS, donc le soutien est direct. Nous nous félicitons du système d'aide personnalisée, des possibilités de réorientation en cours d'année. Ça, c'est le président de l'UNL qui dit ça. Voilà. Et pour la FIDL, c'est loin d'être suffisant. Voilà. Bon, grosso modo, la réforme proposée, elle repose sur la réduction massive du nombre de postes. Voilà, c'est à partir de là qu'ils ont travaillé et ils ont cherché comment faire avec tous ces postes à moins. Voilà. Donc il y a des tonnes de démagogie, les fameuses heures, les 2 heures de soutien individuel pour chaque élève en seconde, première et terminale.
Hein. Ah
bon. Oui.
Mettre ça aussi.
Bien sûr. Voilà, mais on ne sait pas qui va s'en charger, comment seront payés les gens. Enfin, diminution des heures de cours pour les 3 niveaux du lycée. Voilà. Puis, les programmes aussi qui seront allégés. On ne parle pas de ça, mais on dit qu'il y aura de nouveaux équilibres. Les élèves en difficulté qui devront retourner au lycée pendant les vacances. Voilà.
Ah oui.
Voilà, bien sûr.
C'est marrant.
Les élèves qui vont pouvoir changer de filière en cours d'année grâce à des stages passerelles. Bon, on veut bien voir. On promet également aux lycéens d'en finir avec les redoublements, parce que évidemment le gouvernement trouve ça coûteux. Donc si un élève ne veut pas redoubler, il devra suivre durant 1 mois, l'été, des stages de remise à niveau. Mais qui va s'occuper de ces stages?
À moins que ce soit payant, oui, au passage.
Mais bon, on voit bien que...
Alors, diminution des heures d'enseignement, et puis si les remédiations sont payantes, ça voilà. S'appelle une privatisation de l'enseignement.
Voilà. Bon, parce que les expériences antérieures montrent que faire travailler les enseignants pendant les vacances, ça marche pas très fort. Très peu d'élèves et encore moins d'enseignants sont volontaires pour revenir au lycée, quoi. Voilà. Donc, eh bien, il annonce des heures supplémentaires, bien sûr, en partie défiscalisées, une prime spéciale de 500 euros pour les enseignants qui effectuent un service supplémentaire d'au moins 3 heures. Ainsi de suite. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se passe à l'université, dans les UFM et au lycée, moi, je me pose des questions sur l'appel à la grève du 24 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un syndicat appelle à la grève. Alors, ça, voilà, la situation est différente selon les départements. Mmh. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, si tu as des informations, Philo.
Juste en termes de préavis, je sais qu'il y a 3 syndicats qui ont déposé un préavis national.
National,
oui.
Ouais. Mais sur le département.
Ah, après, voilà. qui c'est qui le
pour
qui
le moment, relaie c'est la FSU qui appelle.
D'accord.
Il parle d'un contact vers Sud, voilà, et d'un contact vers les syndicats de la Poste, pour coupler avec une journée de revendication avec la Poste. Défense du service public. Voilà.
Oui, il doit y avoir, normalement, il doit y avoir une convergence des manifestations.
Voilà. Donc le 24 novembre, à 11h30, devant la préfecture, à Bordeaux.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Mais les postiers ont un rendez-vous un peu plus tôt.
D'accord.
C'est 10h devant la poste de Mériadec où ils auront manifestation et, a priori, pour l'instant, ils finissent vers 11h30. On verra après comment ça continue à 11h30. Quoi. Pardon.
Bien, on poursuit.
Mais,
Oui, on poursuit, on fait pas de pause, non. Est-ce qu'ils sont essoufflés, les auditeurs? Est-ce qu'ils ont envie de...
On est toujours dans l'enseignement. Le Monde a consacré une page aux 2835 enseignants là, qui refusent les désobéissances, qui refusent d'appliquer les directives ministérielles. Voilà, c'est Le Monde du 10 novembre 2009.
D'accord.
C'était juste une info.
Voilà. Okay. Juste un point, c'est qu'ils refusent d'appliquer une des mesures ministérielles. C'est ça qu'il faut savoir, ce qui est important aussi. C'est pas
une des mesures.
Oui, elles sont nombreuses.
Ok. Donc, c'est à qui la parole, là?
Vas-y, Fora.
Ah bon. Donc, moi, si je prends la parole, c'est pour parler d'une situation en centre de rétention.
Oui, voilà.
Bah, d'une situation qui date donc de mardi, le 17 novembre. Et malheureusement, qui est une situation tellement emblématique que c'est pour ça que j'en parlerai. Il se trouve qu'un homme âgé de 35 ans s'est pendu à l'aide d'un drap dans sa cellule. Il devait en effet être expulsé le 18 novembre. Il semble que les motifs de cet acte désespéré correspondent effectivement à cette perspective d'expulsion, a déclaré lundi le procureur de la République de Bastia, Jean-Jacques Fagny. Alors évidemment, il y a eu de nombreuses réactions. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé mardi les lois sur l'immigration, après donc ce suicide. Donc cet homme était marocain, il était condamné à 2 mois de prison pour avoir refusé d'embarquer dans un avion après un arrêté d'expulsion. C'est la politique menée en matière d'immigration qui est malade. Malade du chiffre, de résultats à tout prix, de répression quotidienne et de xénophobie, a estimé le comité corse de la Ligue des droits de l'homme dans son communiqué du jour. Pour le collectif antiraciste Avabasta, les lois actuelles sur l'immigration créent un sentiment de honte chez les citoyens. Pourquoi, a demandé ce collectif, pourquoi seuls les riches ont-ils facilement droit au visa pour circuler facilement d'un pays à l'autre, à posséder une résidence secondaire en Tunisie, au Maroc ou en Thaïlande, sans problème? Et je trouve que c'est une excellente question, n'est-ce pas? Les deux organisations ont appelé à se joindre au rassemblement organisé par le réseau Éducation sans frontières le mercredi devant le commissariat de police de Bastia. Donc c'était hier. C'est pareil, c'est des choses dont on... Je sais pas si vous en avez entendu parler, vous. Moi, pas du tout. Sauf à aller chercher l'info sur dans des sites particuliers. Alors là, je sais pas sur... Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé encore sur le quotidien des sans-papiers, en fait. Voilà. Hein, donc, vous pouvez toujours taper le quotidien des sans-papiers ou Paris s'éveille et passer au quotidien des sans-papiers puisqu'ils ont aussi cette rubrique. Voilà. Hein. Mais si on ne va pas chercher l'information de façon active, ce sont des choses dont on n'entend jamais parler.
Ah, je voulais continuer sur les sans-papiers, justement. Parce qu'il va y avoir le 28 novembre, donc... Il y a un appel à se rendre en Angleterre, pas n'importe où, à Folkestone, c'est-à-dire de l'autre côté de la Manche. Pourquoi Folkestone? Parce que le 29 octobre a été inauguré un centre de renseignement opérationnel franco-britannique, donc qui va opérer dans la guerre ouverte contre les sans-papiers. Nous passerons la Manche, soyons nombreux devant ce premier centre de renseignement franco-britannique pour dire non à cette politique de l'Europe brune et à ses frontières. Chasse à l'homme, violence, emprisonnement à répétition et traitement inhumain et dégradant, charter vers la mort, serait donc la seule réponse? Les ministres européens qui vont se réunir le 29 novembre à Stockholm et le 1er décembre pour harmoniser les politiques d'immigration, harmoniser et mettre en commun les moyens de répression, de fichage, de violence et de violation des droits humains, d'emprisonnement et de charter de la honte. Folkestone est la première étape de ces harmonisations d'une Europe xénophobe. Voilà, donc un appel à la mobilisation après les événements de Calais. Ça continue, mais de l'autre côté de la Manche. Renseignement sur le site noborder.com. groupe local ah non, je me trompe, c'est pas du tout ça. Oui, No Border Calais. Voilà, No Border groupe local Calais. Ensuite, qui...
Oui, mais moi je vais revenir un petit peu juste pour donner quelques rendez-vous en les replaçant dans le. Dans le débat de la crise sociale que l'on vient de vivre. D'un côté, on a vu qu'on a eu une crise financière importante il y a peu de temps, qui donne aujourd'hui une crise économique avec des licenciements, des fermetures d'entreprises, et qui débouche sur une crise sociale de plus en plus de personnes en difficulté financière. Et par rapport à ça, on a à côté du spectacle politicien, aussi bien des responsables politiques qui disent que les écrivains, s'ils sont connus, doivent se taire, ou on a d'autres porte-paroles du gouvernement qui disent que la réponse des problèmes sur la criminalisation sexuelle, c'est la castration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ministre de l'identité qui ferme, on a vu qui ferme une jungle à Calais, et puis maintenant qui voit qu'elle se déplace à Dunkerque, hop, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va chasser le migrant jusque dans les recoins où il peut déposer ses vêtements, son coin de cuisine. Enfin, et donc il appelle ça la lutte contre les réseaux mafieux, donc avec un grand renfort de spectacle. À côté de ça, on voit des hommes politiques qui se chamaillent sur la paternité. Ça, c'est pour la réponse à gauche. Donc le rôle du spectacle, il est toujours de faire rire ou pleurer, et donc de détourner de la régression sociale qui est à l'œuvre. Et donc ça, effectivement, un petit peu par rapport à ce que tu disais, c'est bien l'absence d'alternative en termes de propositions claires, aussi bien politiques que syndicales. Pour autant, il y a des mobilisations, et il s'agit pour nous d'être dans les mobilisations pour les transformer, pour aller plus loin. Donc certes, elles devraient être générales par rapport à une hausse du chômage dont on nous dit toujours « Ah, mais elle est moins forte que la hausse a été le mois précédent ». C'est-à-dire que ça baisse pas, c'est la hausse qui est moins forte. On comprend bien que ça continue quand même. Donc, qu'est-ce qui était prévu? Et donc, d'un côté, on a cette aggravation, les attaques des services publics. Et donc, par rapport à ça, aussi symbolique que ça puisse être, il y a un certain nombre de mobilisations. Donc, tu disais qu'il y avait le 24 novembre, mobilisation à l'éducation nationale, dont a priori il n'est pas prévu de suite, mais ouais. Espérer. Par contre, il y a une grève à la Poste qui est prévue pour le 24 novembre par rapport à clairement un changement de statut et donc de privatisation, puisque le débat qui avait eu lieu au Sénat a aggravé le texte proposé par le gouvernement, puisqu'il y a eu des amendements pour dire entièrement public, bien ces amendements ont été rejetés, ou d'autres amendements ne rentrent pas dans les détails. Et donc le processus est largement engagé de privatisation. Donc il y a des mobilisations, des préavis de grève illimitée ont été déposés par trois fédérations, Sud-PTT, Force Ouvrière et la CFTC. La responsabilité après elle est dans le soutien qui est porté à ces mobilisations, et la capacité à donner envie aux gens de relever la tête. La question, elle est là dans cette position du démissionnaire qui est celui où on baisse la tête en disant que la vague va passer au-dessus, mais on sait toujours que la vague se retombe et écrase celui qui a baissé la tête. Bon, mais c'est malheureusement les réflexes sont pas bons. Donc ça, c'est sur ces journées-là, avec la perspective le 28 novembre partout en France et à Bordeaux en particulier à 14h30 devant le Grand Théâtre Place de la Comédie, une campagne d'interpellation des citoyens avec des cartes de pétition pour s'adresser au président, la perspective d'une manifestation le 13 décembre. Par rapport à la hausse du chômage, il y a cette année, à la période où chaque année il y a une mobilisation des mouvements de chômeurs, on a appelé ça un mouvement pour des droits nouveaux, des actions contre le chômage, les précarités et les licenciements qui vont s'étendre du 23 novembre au 5 décembre. Donc sur un certain nombre de mesures de défense au quotidien des conditions de vie des chômeurs et des précaires. Donc vous savez que les organismes aujourd'hui, par rapport aux plus pauvres, leur proposent bien de non plus de se déplacer pour avoir un contact humain. Une toignière, dire il y a un numéro pour Pôle emploi qui est le 3949, qui est payant bien sûr, et pour la caisse d'allocation familiale qui donne le RSA, eh bien là il y a un site internet et donc il faut s'équiper d'internet pour pouvoir être à jour s'enregistrer et avoir accès aux droits. Donc on a accès aux droits que dans que lorsqu'on a les moyens d'y avoir accès.
Sachant qu'il y a le 3949 aussi.
Oui, c'est ce que j'ai dit, voilà, oui. qui est payant pour le Pôle emploi. Voilà. Donc la mobilisation qui va commencer donc le 23 novembre, bon, je pense que la clé des ondes vous en reparlera, mais il y en a déjà parlé, à 14h, donc il y a un rassemblement à Bordeaux-Lac, devant la caisse d'allocation familiale, rue du docteur Gabriel Péri, justement pour interpeller sur ces questions de difficultés par rapport à ces nouveaux revenus minimums sociaux et les contrôles qui sont associés. Le 24 novembre, ça continue, donc il y aura certaines associations qui participeront à la manifestation des postiers et des enseignants. Ensuite, à 14h, il y aura un rassemblement qui est des chartrons devant l'agence d'intérim Randstad, puisque là aussi c'est les agences d'intérim sont de plus en plus difficiles, et les intérimaires en tout cas sont les premières victimes de la crise économique, puisque les grosses entreprises se débarrassent d'abord des intérimaires, ensuite des autres sociétés de sous-traitance, des CDD. Voilà, il y a toute une hiérarchie entre guillemets de la misère. Pourront suivre ça le 24 novembre d'un débat public sur les manipulations des chiffres du chômage. Le 25 novembre, ça sera, c'est mercredi prochain, une action de décontamination anti-précarité qui aura lieu devant le Pôle emploi de Senon. Donc ça, c'est en direction de Dravement à la Répelletan, à 10h du matin. Le 27, vendredi 27 novembre, ça sera une action par rapport au logement. Et donc le rendez-vous est à Pellegrin, sur la ligne A du tram. Le 1er décembre, à 9h15, ça sera un parcours militant des différents pôles emploi. Et donc le rendez-vous a lieu à 9h15, donc 21 rue Saint-Cric, au local d'AC Gironde. Le 3 décembre, c'est à 11h, un rassemblement santé-précarité, puisqu'on sait qu'avec les déremboursements, qu'avec les taxes sur les arrêts maladie, etc., de plus en plus de personnes en difficulté ne se soignent plus, et comme on dit, on voit revenir des visages du siècle dernier, enfin de la fin du 19e siècle, édentés et mal soigné, puisque effectivement aujourd'hui la santé est en train de devenir un luxe. Le 4 décembre, eh bien là, ça sera une action sur la réquisition de nourriture. Et si vous pouvez participer à tout ce programme, mais en tout cas ce qui est important, c'est d'être nombreux le samedi 5 décembre à 15h place de la Victoire pour montrer ensemble que l'on est unis pour lutter contre la précarité et la régression sociale qui est à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est important, c'est à la fois défendre un certain nombre de choses, se défendre, mais aussi fendre cette logique qui nous amène à reculer tout le temps, et à travers cette brèche, essayer de construire autre chose avec d'autres valeurs que l'on a, peut-être Bruno nous parlait de 1936, mais quand il y a un certain nombre d'attaques, à un moment donné, c'est peut-être dans ces périodes-là où il faut qu'on soit en capacité peut-être à faire émerger d'autres valeurs qui sont complètement, non plus des ajustements, des défenses, des améliorations, mais un changement radical, effectivement, de rapport, où on ne soit plus des ressources humaines, mais bien des êtres humains en relation les uns avec les autres. On abandonne les valeurs qui sont les leurs.
Fais une petite pause avant.
Une petite pause, pardon.
Ils sont venus de Florence, de Rome ou bien de Milan, dans notre beau pays de France, après les années de plomb. Ils portaient des noms d'ailleurs, Paolo Roberta Oreste, un pénitent voyageur, Enrico ou Cesare.
Donne-moi le droit d'agir,
je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir,
j'ai déjà jeté l'ancre, je ne veux plus bourlinguer. Sans boulot, sans domicile, sans repère et sans copain, les débuts furent difficiles dans les années 80. Mais un jour, le président leur offrit sa protection, et pendant plus de 20 ans, rien n'altéra cette illusion.
Donne-moi le droit d'agir,
je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir,
y a quelqu'un qui m'attend, là-bas sur la jetée. Peu à peu, ils ont forgé, avec des femmes, avec des hommes, des amours, des amitiés, dont ils ne furent pas économes. Et les petits qu'ils ont faits ne peuvent s'endormir le soir, sans recevoir leurs baisers, ils ont bien trop peur dans le noir.
Donne-moi le droit d'agir,
je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir,
si je reprends la mer, j'irai droit aux galères. Un beau jour, le président s'en est allé sans crier gare, et bientôt son remplaçant a trahi ses engagements. Paolo, persécuté par l'Europe judiciaire, fut conduit à la frontière, puis dans un cachot fut jeté.
Donne-moi le droit d'agir,
je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir,
l'exil interminable n'empêche de rêver. Marina ou Cesare, nos camarades venus d'ailleurs, les Italiens réfugiés vivent à nouveau dans la peur. Car 25 années plus tard, il revient le cauchemar, avec l'État qui crie vengeance et veut briser leur existence.
Donne-moi le droit d'asile.
Je vais rester ici.
Donne-moi le droit d'asile.
Je veux rester ici. Mon enfant grandit.
Donne-moi le droit d'asile.
Je voudrais accoster.
Donne-nous l'asile.
Je vais rester ici. Donne-moi le droit d'asile. Je veux rester ici. Mon enfant grandit.
Si.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et c'est la fin bientôt de l'émission Achaïra, animée par le Cercle Jean Barbier de la Fédération Anarchiste, un jeudi sur deux sur la clé des ondes. Je crois que le moment est venu de se donner des rendez-vous. Alors, dans la chronologie.
Mais je sais pas, là j'ai le vendredi 20 novembre, À l'Athénée Libertaire, il y a une projection de débat fascisme-antifascisme dans l'Est espagnol avec le groupe antifasciste de Salamanque, Antifa. À 19h, le même jour à 20h, donc une heure après, il y a le cours d'histoire de l'art sur la photographie, histoire et technique. Le 23 novembre à 18h30, alors je sais pas, ça c'est le lundi, au Café de l'Horloge, cours Gambetta, il y a la réunion de comité de soutien par rapport au procès d'une militante du boycott des produits israéliens, voilà, qui doit passer, qui est passé le 4 novembre, et donc il y en a un report le 13 janvier. Voilà, différentes associations, dont celle qui avait porté plainte contre Daniel Mermet et Edgar Morin pour accusation d'antisémitisme. Et donc là, c'est la même chose en disant que les produits fabriqués et boycottés le sont par des êtres humains et que ce sont donc ces personnes-là qui sont boycottées. Enfin, il y a tout, passons. Et donc le 27 novembre, il y a une projection. Alors, je ne sais pas si d'autres avant le 27 novembre. Le vendredi 27 novembre, il y a une projection suivie de concerts en soutien aux migrants de Calais. Et donc, cette action sera suivie d'une collecte de vêtements chauds, de couvertures, de duvets qui seront acheminés vers Calais, justement, dont on parlait suite au rafle. Et ensuite, il y a une annulation de débat à noter le dimanche 29 novembre, dans le programme de l'Athénée Libertaire, est marqué un débat avec Jean Ortiz organisé par le Cercle Lambarué. Ce débat n'aura pas lieu. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, c'était sur la guerre d'Espagne, sur les résistants, justement, les guérilleros en Béarn. Voilà. Bon. Les maquis de France et d'Espagne. Il tourne en ce moment sur justement autour de sur son film en espagnol Fils de Rouge.
Fils de Rouge.
Bien. C'est la fin de l'émission. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire le jeudi 3 décembre. C'est ça?
Sachant que dans 15 jours, peut-être qu'il y aura des agents du CRSP pour présenter toute une campagne contre les centres de rétention administrative.
CRSP, donc c'est
collectif pour la régularisation de tous les sans-papiers.
D'accord.
Il y aura une chronique sur l'espéranto, normalement. Voilà.
Donc, bonsoir.
Bonne fin de soirée.
Bonsoir.
Et à dans 15 jours.
Segunda, primeiro dia da semana, terça, nunca mais é sábado, quarta. O dia das crianças, quinta, é quase o fim da semana, sexta, a comer o meu bacalhau, sábado, é o dia das namoras, domingo, é o dia do descanso. Estás a ouvir, até janeiro, no primeiro mês do ano, fevereiro, no mais curto do ano, março, quando começam os trabalhos, abril, trabalho nos campos, maio, a semear o milho, junho, lá vem o verão, julho, hey, lá vem o imigrante, agosto, toda a malta de imigrante até setembro, da maré da vendima, outubro, quando lá vem o inverno, novembro, chuva, vento e frio, dezembro, até na maré do Natal. Zumba, zumba, zumba.
então podes também pôr o Burning Spear, ou então pões a tocar este DJ, o Yoroi, o Maccabee, ou então o Bujo Bandone, também é fixe, ou então tu nos tens desde, olha, podes pôr o Jimmy Cliff, ou então o UB40, que também dá, e é mesmo, ou então se estás na França, podes pôr o Mr. Gang, que o gajo também canta em português, ou então pões este da Dina T, ou o Super John, ou então o Sai Sai, ou então o Macilha mesmo, yeah. E podes pôr no quarto, podes pôr na sala, podes pôr no carro a tocar, até vais para a discoteca, podes pedir ao DJ de pôr música reggae, ou então na festa do lugar, pedes ao Senhor Abad, assim sempre, não é? Até no casamento, no batizado, sempre música reggae, estás a ouvir? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, sim, não é?